Troisième phase du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en Ituri, les points de désarmement et sites de transit resteront ouverts jusqu'à une nouvelle date butoir à fixer. Le ministère de la Défense motive cette décision par l'engouement des ex-combattants ces derniers jours vers ces sites. La population a manifesté ce dimanche matin à Rutshuru Centre, au nord Kivu. Elle revendiquait la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mondo Gusto, sabotée il y a plus de mois par les insurgés fidèles à Laurent Kouda. Ce n'est pas seulement de la fièvre hémorragique Ebola que meurent les populations au Kasaï occidental. C'est aussi la fièvre typhoïde et la dysenterie due au Shigella. Les premières conclusions des laboratoires CDC installés à Mweka et Nuebo ont été rendues publiques par le ministre provincial de la Santé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les points de désarmement et les sites de transit pour accueillir les miliciens candidats à la troisième phase du PNDDR en Ituri n'ont plus fermé leurs portes officiellement ce dimanche 30 septembre. Comme initialement prévu, il reste ouvert jusqu'à ce que le ministre de la Défense fixe la nouvelle date butoir, annonce du chef du bureau du PNID à Ituri ce dimanche. Cette information est également confirmée par le ministère de la Défense qui motive cette décision par l'engouement observé des ex-combattants dans ce site ces derniers jours. Plus d'explications avec Isaac Romoyopé.
Plus de 70 ex-combattants du FRPI et du FNI ont intégré samedi dernier le site de transit de Kwandroma et de Bounia. Les leaders de ces deux groupes armés affirment que d'autres combattants sont en route pour rejoindre la troisième phase des PNDDR. Selon les bureaux des PNID en Ituri, au total plus de 1600 combattants se sont déjà rendus sur les 4605 attendus depuis le début des opérations le 4 août dernier. Parmi ces derniers, 780 proviennent du FRPI sur environ 3500 hommes candidats pour les PNDDR en cours. L'officier de liaison de ces groupes armés justifie la réticence de ceux qui restent au problème de grade d'une vingtaine d'officiers de ces mouvements qui attendent encore leur nomination par le gouvernement. Les FRPI demandent au gouvernement central de nommer ces officiers pour accélérer les processus de désarmement de ces combattants. À cause de cette situation, ils exigent également la prolongation de la date de fermeture des points de désarmement. À cette question, aucune décision de prolongation n'est confirmée jusque-là. Cependant, en attendant que le gouvernement se prononce, les bureaux du PNID en Ituri laissent tous les sites de transit ouverts pour les désarmement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Insécurité pour les populations du secteur de Yaoundé-Lolo, à 250 km au sud-est de Kisangani, en territoire d'Opala. Le chef du secteur accuse un commandant Maïmaï, communément appelé colonel Toms, de piller, violer, extorquer les populations. Le colonel Toms est aussi accusé d'emporter des femmes, de ravager les plantations des villageois et de soumettre les jeunes aux travaux forcés. Le chef du secteur a lui-même été chassé de son bureau par ses Maïmaï. Il appelle les autorités provinciales apparaissent au plus vite en envoyant des éléments FARDC pour sécuriser son secteur. André Kitenge.
Au total, 28 villages de ce secteur subissent la loi de ce commandant Maïmaï. À l'arrivée de la mission mixte section droits de l'homme de la Monique, Kisangani, UNFPA, administration du territoire d'Opala et la justice militaire hier samedi à Lekelesole, une localité de ce secteur, les villageois n'ont pas caché leur souffrance.
Commandant Toms, lorsqu'il était sorti de Yaoundé, il obligeait de force les jeunes gens à abattre sans raison tous les arbres fruitiers en cas de refus ou de fouetter. Il pillait tous les élevages du village, il violait même les femmes enceintes, extorquaient des marchandises et de l'argent. Dans la carrière tour à tour, ils nous soumettent au corps, ravissent les diamants et kidnappent les femmes. Pour le chef de Yaoundé Lolo, aussi longtemps que son secteur demeurerait non sécurisé par les éléments de FARDC ni de la police, sa population sera toujours objet de maltraitance de la part de ses Maïmaï. Marcel Lokwa Isolé lance un SOS aux autorités militaires. Je demande aux autorités de Kinshasa d'envoyer la force militaire pour faire sortir les Maïmaï et leur commandant Toms de cette forêt. Même un peloton de militaires suffit. Je demande aussi l'arrivée du sous-commissariat de la police à Ndeke-le-Soule et à Lomolo pour que la paix revienne. Contacté, le commandant 9e région militaire déclare avoir déjà pris des dispositions pour amener le colonel Toms à la raison afin que lui et ses éléments rejoignent l'armée nationale. Kisangani, enseignement soit Radio Okapi.
Il s'agissait donc bien de
Anselme Maswa. Toujours dans cette province, le ciel congolais fait encore parler de lui. Un Antonov 12 de la compagnie aérienne Business Cargo est porté disparu depuis hier samedi. L'avion a décollé de l'aéroport de Kisangani aux environs de 11h heure locale en partance pour Goma dans le Nord Kivu. L'appareil avait à son bord 7 membres d'équipage dont un Congolais et des marchandises selon des sources aéroportières. Sa destination n'est toujours pas connue pour l'instant. André Kitenge.
L'appareil ne s'est pas posé à Goma comme prévu avant son décollage à l'aéroport de Bangoka. En dehors de 7 membres d'équipage déclarés, cet avion transportait également plus ou moins 18 tonnes de marchandises composées essentiellement de cassiterite, l'huile de palme et autres produits de beauté. Selon les sources aéroportuaires de Kisangani, l'avion en question avait perdu tout contact radio avec le tour de contrôle quelques temps après son décollage. Toujours selon la même source, il se pourrait que l'avion se soit posé dans un des aéroports proche de Kisangani ou de la province orientale pour certaines raisons, notamment de mauvais temps ou des problèmes techniques. Certains commerçants contactés disent qu'il y aurait eu au départ une incompréhension entre les membres d'équipage et les responsables de la compagnie aérienne Business Cargo autour des 70 000 dollars américains. Pour l'instant, les autorités de la régie des voies aériennes disent activer les contacts avec différents aéroports en vue de connaître la vraie destination de cet Antonov 12. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Je le disais en titre, manifestation populaire ce dimanche matin à Rutshuru, centre nord Kivu. La population revendiquait la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mondo-Gusto, sabotée il y a plus d'un mois par les insurgés fidèles à Laurent Nkunda. Elle estime que l'implication personnelle de l'archevêque de Goma, Monseigneur Faustin Ngabu, peut pousser les insurgés à remettre en place les matériels de la centrale démontée. Témoignage de l'un des manifestants, joint au téléphone par Radio Okapi.
Ces gens-là, ils devraient, avec les insurgés, étant à la paroisse, et jamais, l'évêque n'a jamais réagi. Ils sont partis avec les véhicules de la diocèse, de la paroisse, l'évêque n'a pas réagi. Et puis, la population de Rutshuru s'est dit que non, et si l'évêque le voulait, aujourd'hui, il peut demander à ce qu'on remette ces pièces manquantes. Mais quand même, la population avait manifesté, premièrement, elle avait l'intention d'interdire à ce que la messe n'ait pas lieu. C'est ainsi que vers 5 heures, on attendra les tocsins, c'est-à-dire la cloche sonner. Ce n'est pas dans les habitudes de la paroisse de Rutshuru.
La marche s'est poursuivie jusqu'à la base de la MONUC à Kiwanja, où les manifestants ont remis une lettre portant leurs revendications. Les victimes des crimes de guerre méritent réparation, propos de Roberto Garitone, expert en justice post-conflit. Cet ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC l'a dit le week-end dernier après un séjour à Kinshasa et à Kisangani. Pour cet expert en justice post-conflit, la justice est la base de la réconciliation. Le Chilien propose aussi la mise en place d'une nouvelle commission Vérité et Réconciliation avec des personnalités crédibles. Roberto Garitone.
Si vous avez un Desmond Tutu, pas prime Nobel de la paix, mais doit avoir de certaines personnalités que tous les Congolais se sentent représentés. Ce monsieur, cet écrivain, cet évêque, cet moula, cet pasteur, cet, je ne sais pas, journaliste d'énorme prestige, pourquoi pas? Cet avocat doyen de la faculté de droit, cet juge impeccable qui a fait toujours la justice et jamais a été accusé de corruption parce qu'il n'est pas corrompu. Peut-être non seulement de société civile. Si est-ce qu'il y a un politicien qui a fait son travail de politicien dans l'honnêteté, qui est reconnu par son modération et son bon esprit, pourquoi pas? Je ne peux pas penser que parmi 60 millions d'habitants, il n'y a pas 10 personnes honnêtes reconnues par toute la population. C'est impossible.
Roberto Garitone, expert en justice post-conflit au micro de Georges Kamoujova. Plusieurs dizaines de Congolais expulsés de l'Angola sont arrivés ce week-end dans plusieurs localités du Kasaï occidental, Kamako, Kabungu et d'autres localités du territoire de Tchikapa. Les expulsions ont repris depuis le début du mois de septembre, selon l'ONG des droits de l'homme, protection de l'enfance et de la jeunesse par les droits de l'homme. Cette nouvelle vague provient de Mukita, Fuka, Uma, Njaji et Maluji dans la province de Lunda Norte. Selon l'autorité territoriale de Tchikapa, la fréquence des mouvements et la multiplicité des voies de sortie rendent difficiles les statistiques. À Kinshasa, le deuxième vice-président président de la commission parlementaire chargée des relations extérieures, Jean-Charles Okoto, déplore cette situation et demande au ministère des Affaires étrangères de s'y impliquer. Jean-Charles Okoto est jeté au téléphone par Mireille Kabbala.
Je crois que le ministre des Affaires étrangères devait s'impliquer ensemble avec son collègue de l'Angola, et c'est juste après qu'on peut nous envoyer le dossier, et à notre niveau, je crois qu'on prendra soin de pouvoir tamiser et effectivement rentrer en contact avec les parlementaires angolais. Moi, je crois qu'il appartient dans un premier temps aux responsables, c'est-à-dire à l'exécutif, et que si le problème le dépasse, ils peuvent envoyer ça à notre niveau, parce que j'ai toujours estimé que les relations parlementaires et la diplomatie parlementaire est la diplomatie la plus efficace. Voilà, jusqu'à son niveau, madame, tout ce que je peux déplorer. Je n'ai pas encore eu des informations authentiques causant ce vague, cette vague plutôt, mais il est nécessaire qu'au préalable, que le chef de mission diplomatique, et ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, puisse creuser l'accès, mener des enquêtes, afin de pouvoir nous donner l'information qu'il faut.
Les turbines du barrage d'Inga exigent une réhabilitation urgente pour éviter un arrêt des machines qui provoquerait entre autres des délestages importants dans la distribution de l'énergie électrique à Kinshasa. Le directeur général de la SNEL l'a fait savoir ce samedi à Radio Okapi pour M. Daniel Yengo sur les 6 tribunes installées pour alimenter Inga 1. Une seule fonctionne. Presque la même situation à Inga 2 où 2 turbines seulement fonctionnent sur le 8 existant. D'où il faut se mettre urgentement au travail pour éviter le pire. Monsieur Daniel Yengo est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Il faut savoir que les machines que nous avons là-bas ont déjà une certaine durée de vie et exigent surtout une réhabilitation qu'un entretien. Et si cette réhabilitation n'est pas faite, nous risquons de vivre ce que nous sommes en train de constater, les arrêts imprévus des machines. Si une machine s'arrête, c'est 175 mégawatts qui manquent dans le parc de production. Cela va se traduire par des délestages importants, c'est pas des petites perturbations. Donc c'est assez sérieux quoi, au cas où nous ne mettons pas immédiatement dans la réhabilitation de ces machines. Tout le monde est conscient. Le gouvernement comme la SNEL.
Combien faut-il pour réhabiliter ces turbines?
C'est beaucoup d'argent.
En termes de chiffres?
Avec les études qui étaient faites, réhabiliter les machines d'Inga 2, vous êtes de l'ordre de 30 millions de dollars. Une machine.
Là, vous ne parlez que de Inga 2.
Vous avez raison, Inga 1 n'est pas en bon état non plus, mais là, le montant de réhabilitation n'est pas de cet ordre-là. Il faut compter des tiers en fait.
Au Kassai occidental, la 160e des morts enregistrées depuis quelques semaines n'est pas seulement due à la fièvre hémorragique Ebola, elle est aussi due à la fièvre typhoïde et à la dysenterie due au Shigella. C'est le ministre provincial de la Santé qui l'annonce, cela en se basant sur les premières conclusions des laboratoires CDC installés à Mweka et à Luebo pour analyser des échantillons des cas d'Ebola. D'après le docteur Ntumba Chitoka, ces deux laboratoires sont arrivés à 24 cas positifs sur les 144 échantillons analysés. Des analyses se poursuivent pour déterminer les cas concernés pour chaque épidémie. Docteur Ntumba Chitoka est joint au téléphone par André Kambala Mujanai.
Dans le cadre des diagnostics différentiels, sur terrain, nous sommes en présence de 3 épidémies. L'épidémie du virus Ebola, donc la fièvre hémorragique virale, la dysenterie bacillaire, liée à Shigella, et la fièvre typhoïde. Ce qui fait que le nombre de cas actuellement, 380 quelques, ne sont pas uniquement liés à la présence des virus, c'est de partager entre les 3 épidémies en présence. Même le nombre de décès aussi sont encore de partager entre les 3 cas. Il faudra nous attendre que les tests de laboratoire actuellement puissent nous départager. Donc avec les 24 sujets testés positifs, d'ailleurs la plupart sont morts, ça nous permettra de partager pour savoir quels sont les cas en rapport avec Ebola, avec ceux qui fuient dans la dysenterie bacillaire. Donc nous disons que le nombre de cas à zéro pendant la semaine vient de s'achever et qu'il n'y a pas de décès, mais nous demandons à la population de respecter les règles d'hygiène.
Un deuxième centre national de transfusion sanguine pour la RDC inauguré hier. Ce centre localisé à Lubumbashi devra servir le Katanga. Pour le ministre national de la Santé présent à la cérémonie inaugurale, le centre disponibilisera pour la province du Katanga une banque de sang de qualité et en quantité suffisante. Le coût global des travaux de construction et d'équipement est évalué à 74 000 euros, essentiellement dont de la coopération technique belge. Témoin de l'événement, Madeleine Ouila.
Pour le responsable de centre, cette banque disponibilisera 1950 unités de sang par mois pour la ville de Lubumbashi et 4000 unités pour le reste de la province. Ce centre de transfusion sanguine permettra aussi la formation des prestataires de ce secteur, dont les médecins, les infirmiers et les techniciens de laboratoire. Pour les médecins présents à cette manifestation, cette banque de sang aidera beaucoup d'institutions hospitalières de Lubumbashi quant à la quantité et à la qualité du sang. Docteur Foreman Mabala.
Bon nombre d'enfants meurent par jour, par heure, par minute dans la ville de Lubumbashi de suite de paludisme. Et souvent, le paludisme a comme soubassement ou retentissement sur l'anémie. Cette perte énorme en sang est à la base de beaucoup de décès. Mais avec la mise en place de ces centres, ça pourra permettre en fait que l'approvisionnement soit permanent dans les hôpitaux en unités de sang en vue de sauver des vies humaines.
Toujours d'après ce médecin, le sang sera vendu aux hôpitaux de la place à un prix dérisoire. Ceci pour permettre au centre de s'approvisionner en intrants et en réactifs et luttera contre l'insécurité transfusionnelle, objet de plusieurs maladies dont le VIH et SIDA, ajoute-t-il. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.